Soyez les bienvenus ce dimanche matin, 31 octobre, demain 1er novembre, la fête de la Toussaint. Dans cette espérance, avec tous ces prénoms de vie que nous portons les uns et les autres, le 2 novembre, c'est plus la commémoration des différents défunts. Et pour parler des mots, pour dire l'épreuve aussi en même temps que l'espérance, j'ai invité aujourd'hui à ce micro Philippe Baudassé. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené un travail pastoral pendant presque 20 ans en paroisse, en établissement hospitalier, en maison de retraite, en prison et auprès des plus démunis. Vous êtes aussi cadre au SAMU social de Paris et vous êtes aussi particulièrement investi auprès des familles en deuil et vous avez participé à la formation de professionnels et de laïcs prenant en charge la fin de vie et l'accompagnement des personnes endeuillées. Philippe Baudassé, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces quelques mots de présentation ?
C'est vrai que ça fait presque plusieurs vies dans la vie, mais rencontrer des personnes par leur douleur quelquefois est une occasion d'accéder à des pans de vie absolument extraordinaires et les personnes se révèlent comme étant porteuses d'une richesse assez peu commune au premier abord en fait et qu'on arrive à partager dans ces moments-là.
J'ai envie de dire pour commencer cette émission, c'est peut-être pas très gai, mais à quoi ça sert de mourir ?
À quoi ça sert de mourir, c'est une question à laquelle j'aurais bien du mal à répondre spontanément. Et en même temps, me vient cette belle image de Christiane Singer qui indique que si l'on donne à un peintre une toile dont il ne voit pas les bords, jamais il ne pourra commencer à peindre quoi que ce soit. Et ce qui fait la richesse et la beauté d'une œuvre d'art, c'est que précisément la feuille pour l'écrivain, la toile pour le peintre a des limites. Et que c'est à l'intérieur de ces limites-là et pas plus loin que l'on va être en mesure de donner toute la richesse, toutes les lumières, toute l'émotion que l'on souhaite donner. Et c'est ça qui va faire effectivement de cette œuvre une œuvre unique. Il en va de même, je pense, pour notre propre vie, c'est-à-dire que gardant à l'esprit que notre vie a un début et un terme, des limites qui sont celles-ci et pas davantage, c'est ce qui nous donne de faire de notre vie peut-être pas un chef-d'œuvre, enfin on l'espère encore, mais en tout cas une œuvre à soi, une œuvre belle dans laquelle nous pourrons mettre tout notre caractère, toutes nos émotions, tout notre désir de vie, toute notre créativité, tout notre sens des autres aussi pour apporter notre pierre à ce monde.
Vous préférez parler du deuil d'une façon particulière et pas d'une façon générale, puisque parler du deuil, c'est aussi rejoindre l'intime de chacun. Il n'y a pas qu'un seul deuil, il y a plusieurs deuils.
Oui, il me semble que le deuil s'inscrit toujours au pluriel parce que, d'abord, chacun le vit différemment. Les deuils eux-mêmes sont multiples, les causes des décès le sont aussi. Ça peut être une mort attendue, d'une certaine façon, ou à laquelle on s'est préparé. Ça peut être une mort subite, ça peut être une mort qui laisse ceux qui la vivent dans une situation humaine, spirituelle, économique, parfois assez dramatique. Et c'est au cœur de tous ces éléments-là qu'il me semble utile d'aborder ce deuil au pluriel pour essayer de le regarder un peu différemment, oui, tout à fait.
Philippe Baudassé, vous êtes notre invité, vous êtes l'auteur de ce livre « Faire vie du deuil, des mots pour traverser l'épreuve » aux éditions Le Cerf. Le deuil éprouve même notre espérance, hein, et nos aspirations, nos fondations et notre foi en Dieu qui n'empêche pas de souffrir.
C'est vrai que dans ces moments si particuliers, la foi de notre enfance peut être un peu bousculée. Ce Dieu en qui j'avais confiance autrefois, à qui je confiais mes prières enfantines, est-il toujours présent alors que me vient une douleur particulière, alors que je suis comme fauché par cette épreuve inattendue et profondément douloureuse? Et se pose la question, oui, inévitablement, où est Dieu quand j'ai mal? Où est Dieu quand j'ai mal? Me revient à l'esprit ce très beau dialogue entre un jeune rabbin et un plus ancien, et le jeune de demander à l'ancien, mais au fond, autrefois, il semblerait que les prophètes puissent parler à Dieu face à face. On le voyait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est absent. Pourquoi on ne le voit plus dans cette dimension-là? Et ce vieil homme de lui répondre, mais parce que je pense qu'on ne regarde pas assez bas. Dieu est souvent celui que l'on pense être dans les nuages, dans la hauteur de sa toute-puissance, dans un peu le lointain de son indifférence, alors qu'en fait, il est celui qui a pris les moyens, sans doute, de rejoindre notre épreuve. Oui.
Et page 18, vous citez un détenu qui parle aussi de multiples petites morts quotidiennes, les abandons, les éloignements, les séparations, les déceptions, les échecs, les incompréhensions.
Souvent, la mort physique d'un proche fait ressurgir effectivement toute une série de petites morts que l'on n'a pas toujours pris le temps de digérer, des séparations, des pardons non dits, des incompréhensions, des déménagements dont on a eu du mal à accueillir la réalité. Mais disait-il, toute mort est en vue d'une vie plus grande. Et je crois que là est notre espérance profondément.
Parfois, pour des raisons d'intimité et de pudeur, nous masquons notre douleur. Et pourtant, nous n'irons pas mieux en tentant de l'oublier. Mais à qui en parler de cette douleur et de cette intimité de la douleur ?
Dans l'entourage, peut-être, il se trouve effectivement quelqu'un qui soit suffisamment attentif pour ne pas porter de jugement sur les paroles et les situations qu'on évoque avec lui. Ça peut être aussi des professionnels de l'écoute. Un certain nombre d'associations existent, heureusement. Ça peut être effectivement une communauté croyante. Ça peut être effectivement des personnes dont la mission est précisément de venir en aide à toutes ces personnes éprouvées afin de les aider à poser très précisément ce qui est lourd, ce qu'elles ont du mal à intégrer, à dépasser. Et cette douleur qui, bien sûr, a besoin d'être dite, doit être envisagée comme simplement une réalité momentanée de la vie qui nous amoindrit, mais pas qui nous paralyse, qui ne nous empêchera jamais d'aller au-delà, effectivement.
Mais à qui parler lorsque je n'ai plus le courage de parler? Parce que simplement je tombe dans un isolement, dans un enfermement, alors que nous pourrions écrire aussi l'enfermement. Et donc à qui parler de tout cela lorsque la déprime est là, et lorsque on parle aussi aujourd'hui du burn-out?
On a vraiment l'impression que parler ne sert à rien, et parler au contraire sert beaucoup. Le fait d'exprimer sa douleur permet déjà de la nommer, de la décrire, de lui donner des contours, et permet aussi d'avoir une certaine prise sur elle. On a souvent la crainte de confondre l'amour que nous portons à notre défunt et la douleur que l'on ressent de son départ. Or, on confond souvent les deux et on mesure une réalité à la mesure de l'autre. Et c'est pas tout à fait juste. On ne doit pas simplement se contenter de mesurer l'amour que l'on porte à notre défunt, à la peine ou aux larmes que nous versons. Reprendre pied dans la vie, avoir cette audace de mettre un pied devant l'autre d'une certaine manière, est aussi une façon magnifique d'être fidèle à ceux qui sont partis. Donc les lieux existent, ça peut être effectivement dans des lieux de parole qui permettent, sans jugement en tout cas, d'oser être en deuil, d'oser vivre ce que l'on vit, de sentir qu'on est normal à passer d'un enthousiasme et d'un appétit de la vie à un moment de dépression, des larmes au rire, de ce besoin de solitude à un besoin de communion avec d'autres et de cette alternance. Oui, assez étonnante, mais qui fait partie de la vie et de ce grand bouleversement du deuil.
Philippe Baudassé, vous êtes l'invité de Tendance Confidence. Aujourd'hui, ce magazine diffusé sur Tendance Ouest, en cette veille de la fête de la Toussaint. Nous parlons aussi de votre livre qui a comme titre « Faire vie du deuil, des mots pour traverser l'épreuve ». C'est paru aux éditions Le Cerf. Mais en quoi le deuil est-il aussi un hymne à la vie? Parce que des gens peuvent se dire « J'avais encore tant de choses à te dire, à toi que j'aime, que j'aimais, tu n'es plus présent, je ne peux plus te prendre dans mes bras, tu es décédé. » Mais comment trouver une présence à l'absence?
Cette absence qui nous ronge souvent quand nous pensons à celui qui est parti. Si nous manquons aujourd'hui, c'est parce que la personne a été profondément présente avec nous. Et refaire mémoire de chacun des moments de vie qui nous ont permis d'arriver jusqu'à ce jour est une magnifique manière de traverser l'absence. Bien sûr, l'absence demeure, mais elle peut être une absence habitée par tout ce que j'ai pu traverser avec lui, avec elle, tout l'amour que nous avons échangé, ces projets que nous avons bâtis ensemble, de ces personnes qui sont fières que nous continuions à vivre pleinement et à mettre au monde tout ce que eux-mêmes ont commencé à semer et dont nous sommes riches aujourd'hui.
Et nous disons, et vous de le redire à l'instant, Philippe Baudassé, à celui qui vient de partir, et pourtant il demeure présent autrement.
Oui, tout à fait. Le cœur du chemin de deuil est d'arriver à accueillir la présence de l'autre, une autre forme de présence de l'autre, qui est moins matérielle, moins tangible, mais tout aussi réelle, et que cet autre nous donne l'occasion d'expérimenter de façon plus intérieure. C'est une relation qui est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus intime. L'autre fait partie de nous, et nous sommes riches désormais de ce qu'il nous a offert.
Et nous ne pouvons pas oublier toute cette part de culpabilité. Hein. Je pense aux personnes, par exemple, qui sont décédées subitement, ou aussi le suicide. Si j'avais su, j'aurais dit, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, et toute la litanie de la culpabilité.
J'aime à déplacer un peu le regard sur cette question parce que l'étymologie du mot défunt, defunctus, signifie celui qui a remis sa mission, celui qui a fini la mission pour laquelle il était fait. Celui qui part, quelle que soit la durée de sa vie, quelles que soient les actions accomplies, il nous revient sans doute de découvrir quelle est cette mission, quelle est la richesse que cette personne a pu porter, mais du coup, tout ce que nous avons fait positivement pour cette personne a contribué à l'accomplissement de cette mission, et peut-être aussi que ce que nous n'avons pas fait a aussi mystérieusement contribué, peut-être que le silence que je regrette d'avoir eu a été peut-être beaucoup plus porteur que la parole maladroite que j'aurais pu dire, ou bien ces moments d'absence auprès de celui qui est parti l'ont peut-être aidé à se retrouver lui-même et à rassembler un peu son être. Donc voilà, celui qui est le défunt, le defunctus, c'est celui qui a achevé sa mission, quita di mala, dit l'expression africaine, c'est l'acte du guerrier qui rend compte à son chef et à son roi de sa victoire au combat.
Mais serons-nous respectueux, hein, vis-à-vis de celui ou de celle qui est décédé, si nous recommençons à nous distraire, à dîner chez des amis, à porter des habits de couleur ou à sortir au cinéma? Est-ce que nous serons encore respectueux du défunt si nous faisons cela?
C'est une grande question qui habite souvent le cœur de chacun. La réponse est sans doute oui, parce que encore une fois, il n'y a pas qu'une façon d'être fidèle à celui qui est parti ou à celle qui est partie, et avoir des projets, honorer la vie que nous avons partagé ensemble est une façon extraordinairement belle aussi de rendre hommage à celui qui à un moment nous a accompagnés et qui continue de le faire d'ailleurs d'une autre façon. Ce n'est pas parce qu'il est passé à une autre façon d'être et de nous être présent qu'il faut pour autant mettre sa propre vie entre parenthèses.
Et comme le disait le professeur Bernard, quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, essayons d'ajouter de la vie à l'aujourd'hui.
C'est magnifique. Le véritable combat, d'une certaine façon, c'est d'apprendre à être vivant avant de mourir. Et pas de se poser la question, est-ce que je serai vivant après? La réponse est sans doute oui aussi, mais d'une autre forme de vie. Mais est-ce que dès aujourd'hui je suis vivant? C'est-à-dire, est-ce que dès aujourd'hui je me mets au monde? Est-ce que dès aujourd'hui j'ai une vraie conscience que je peux apporter, par qui je suis, vraiment ma part d'humanité, ma part de lumière au monde qui nous entoure? Et c'est en apportant cette part de lumière unique, parce que c'est la mienne et pas celle d'un autre, je suis déjà en train de rendre hommage à celui ou à celle avec qui j'ai partagé des jours.
Et pour l'espérance chrétienne, Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu, et lui aussi a été affecté par la mort d'amis. Nous pouvons penser à son ami Lazare. Alors comment l'auteur de la vie peut-il être marqué par la mort? N'est-il pas Dieu?
Mais justement, c'est précisément parce qu'il est Dieu que c'est encore plus extraordinaire qu'il n'ait pas regardé de l'extérieur notre condition humaine. Mais d'ailleurs, quel serait ce Dieu qui nous parle de vie s'il ne connaissait rien aux souffrances et à notre mort? C'est de l'intérieur que ce Dieu des chrétiens a voulu habiter l'entièreté de notre existence, y compris ce qui nous déshumanise le plus et ce qui semble nous rendre le plus extérieur à nous-mêmes. C'est quand même extraordinaire que le cœur de la vie chrétienne soit un rendez-vous au cimetière, le jour de Pâques. Du lieu où tout semble fini, où tout semble désormais avoir un point final, c'est de là qu'une vie nouvelle repart.
C'est de là qu'une vie nouvelle repart. Et la Toussaint, c'est quoi? Nous en avons donné une petite explication en préambule à cette émission. Tous saints. J'ai envie de dire, à quoi ça sert la sainteté?
La sainteté, je pense que c'est la part de lumière que nous évoquions à l'instant, cette part de lumière et d'infini que chacun porte en soi, cette mission particulière, rappelons-nous l'étymologie du mot défunt, c'est cette mission de révéler une part de lumière et de beauté qui est unique dans la vie de chacun d'entre nous, et quand nous laissons suffisamment transparaître ce quelque chose de la beauté, de la grandeur de Dieu dans la vie quotidienne, alors effectivement nous accomplissons quelque chose, une part de sainteté qui s'incarne à travers nos humanités, un métier, une vie de famille ou une vie en tout cas sociale, donne à notre humanité cette part de beauté vraiment.
Donc tout est semence de vie, même la mort.
On peut voir la mort de deux façons. Elle peut être un terme définitif, et puis on peut la voir à la façon dont l'évoque Thérèse d'Avila, qui dit « mais au fond nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie éternelle ». C'est-à-dire que nous mourons en fait non pas d'un manque mais d'un trop-plein. Cette plénitude à laquelle on aspire, cet amour immense des autres, cette communion avec la création tout entière, nous l'apercevons un peu au quotidien à des moments un peu de fulguration dans nos vies. Et voici que la mort est le moyen par lequel cette plénitude fait irruption dans nos existences, et c'est une façon tout à fait différente d'envisager la mort comme un trop-plein de vie et non pas comme un manque de vie.
Merci beaucoup Philippe Baudassé, vous êtes l'auteur de ce livre « Faire vie du deuil, des mots pour traverser l'épreuve ». C'est paru aux éditions du CERF. Je rappelle que vous êtes cadre aussi au SAMU social de Paris et vous exercez en parallèle une activité de coaching spirituel. Et vous avez longtemps mené un travail pastoral et notamment donc l'auteur d'ouvrages de la mission des équipes funérailles « Accompagner et célébrer ». Merci beaucoup pour votre participation et vos éclairages en cette période de fête de tous les cinq.
Mais merci à vous. Le père Brottier m'est beaucoup dire, croyez-moi, ce sont les morts qui mènent les vivants.
Et je vous livre cette citation à mon tour d'une carte que j'ai reçue cette semaine et qui disait « La mort n'est pas une fin, elle est le début d'une autre vie, une vie d'un éternel présent. » Passez une belle semaine, belle fête de la Toussaint.
Podcast by Tendance Ouest.